BPM, élection départementale 2021.
Bonjour à tous et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour le canton de Mantes-la-Jolie viennent répondre à nos questions. Nous accueillons aujourd'hui les candidats de la liste Les Yvelines, une passion commune, soutenue par le Parti communiste et le maire de Magnanville, Michel Lebouc. Nous recevons Jean-Philippe Blot, candidat titulaire avec Martine Sauré. Et nous recevons également Evelyne Dianabra, candidate suppléante avec Denis Andréoletti. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Philippe Blot, vous êtes fonctionnaire et adjoint au maire de Magnanville, en charge de la politique éducative, du développement, de l'environnement, des espaces verts et du cadre de vie. Evelyne Dianabra, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Rosny-sur-Seine et enseignante au Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences du département. Tout d'abord, en 30 secondes, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous présenter ?
Nous nous présentons parce que nous n'avons pas trouvé dans les listes qui étaient présentes actuellement nos valeurs et on n'a pas compris cette addition de logos, pour nous improbable, quand on voit que ces partis n'ont pas été capables de se rassembler pour garder la mairie de Mantes-la-Ville contre le RN et contre la droite. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
On va aborder le volet social. Vous souhaitez créer des espaces de vie pour les personnes en situation de handicap. Alors comment fonctionneraient ces espaces de vie ?
Oui, alors effectivement, il nous semble que sur le territoire, il n'y a pas assez de place effectivement pour pouvoir accueillir les personnes porteurs de handicap et soutenir les familles de ces personnes. Il est important d'avoir des endroits, des lieux, à la fois pour que ces personnes puissent s'épanouir et donc pour ce faire soutenir toutes les associations qui œuvrent sur ce champ. Il est également très important que les familles qui sont confrontées au handicap puissent aussi avoir du temps pour elles, pour échanger avec leur père et puis pour mutualiser effectivement leur expérience et s'entraider, on va le dire simplement de cette manière-là. Donc ça passe évidemment par le milieu associatif qui doit absolument être soutenu et puis ça passe aussi par toutes les formes de soutien à cette forme d'accompagnement.
Un autre projet important et qui vous tient à cœur, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. Que proposez-vous pour venir en aide aux victimes et que faire pour éradiquer ce problème ?
Alors, ce que nous souhaitons, c'est soutenir les communes qui vont s'investir dans la construction de lieux d'accueil pour les femmes victimes de violences, de manière à ce qu'elles puissent trouver un lieu sécurisé où poser leurs valises, je vais le dire comme ça. Et puis, ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'il y ait une vraie réflexion sur ce sujet, parce qu'il ne nous semble pas cohérent que ce soit aux femmes de quitter leur domicile lorsqu'elles subissent des violences familiales avec les enfants, parce que ça nous semble être une double peine. Les enfants vont devoir changer d'école. En fait, ce sont les victimes qui se trouvent pénalisées en plus du drame qu'ils vivent. Donc ça, on souhaite vraiment qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée au niveau du département pour voir de quelle manière on peut faire évoluer cette situation de manière favorable aux femmes qui vivent des violences.
On reste dans la thématique sociale. Quelles sont vos propositions principales concernant les personnes âgées et les enfants ?
Alors, c'est dans la même dans le même esprit hein, que pour les personnes porteurs de handicap. Il nous semble important de mutualiser nos forces, de faire en sorte que ce qui est mis en place sur le territoire, lorsque ça va dans le bon sens, se soit porté et multiplié. Et de la même manière, nous sommes très attachés à l'intergénérationnel et à tout ce qui fait profiter les uns des autres dans leur diversité, leur connaissance, leur expertise.
Et renforcer la possibilité aux personnes âgées qu'elles restent chez elles en renforçant les aides à domicile et en remettant le système quand il y avait il y a quelques années un appel qui, en cas de problème, qui on renvoyait et qui on pouvait apporter plutôt que d'envoyer ces personnes dans des EHPAD. Voilà.
En plus, c'est double gagnant, hein, puisqu'on sait très bien que les structures comme les EHPAD coûtent excessivement cher, hein, qu'elles ne permettent pas à certaines personnes âgées de toute façon d'y accéder tant le prix est onéreux et que ce n'est pas le souhait de la majorité des personnes. Donc, c'est vraiment tout gagnant que de permettre aux personnes âgées d'être maintenues, si elles le souhaitent, le plus longtemps possible à leur domicile avec effectivement les aménagements qui les sécurisent au maximum.
On passe maintenant à l'enseignement et notamment au collège. Vous souhaitez un plan d'urgence. D'abord, concernant la rénovation et les équipements, que faut-il modifier selon vous ?
Alors effectivement, nous souhaitons mettre un plan d'urgence pour les collèges. Alors ça passe déjà par faire un état des lieux, puisque le bâti de nos collèges, malheureusement, n'est pas en très bon état. Cet état des lieux permettra effectivement de prioriser la rénovation des bâtis. Nous souhaitons également un retour au service public de restauration et d'entretien des locaux. Nous sommes attachés, nous, à la proximité, et notamment celle entre les élèves et les agents. Parce que quand on voit le personnel travailler, quand ce personnel connaît les élèves, forcément ça favorise le respect des personnes et des lieux qu'elles entretiennent. Et c'est pas le cas lorsque ces personnels viennent travailler très tard le soir ou très tôt le matin, qu'ils sont anonymes, que l'on connaît mal leur mission. Donc pour nous, il faut absolument recréer cette proximité au quotidien. Et puis, nous sommes aussi très opposés à la fusion des collèges Montais concernant le collège Innovant, qui semblait pour nous être le parfait contre-exemple de ce qu'il faut faire, parce que ce choix n'a pas été fait dans l'intérêt des élèves, bien au contraire. Plus les structures scolaires sont grandes, plus la gestion s'éloigne de l'humain. Plus l'établissement scolaire est grand, plus la connaissance, l'encadrement et le suivi des élèves s'avèrent difficiles et donc insatisfaisants. Donc au-delà de ces mauvaises raisons concernant sa conception, ce collège dit innovant remet également en question l'équité entre les élèves et la place des professionnels dans la conception de son projet pédagogique. Et pour nous, il est vraiment surprenant qu'il y ait autant d'inquiétudes des personnels concernant ce projet de fusion et qu'à ce jour, ces inquiétudes n'aient pu être levées. Donc malheureusement, nous ne pourrons revenir sur cette fusion, mais par contre, nous serons vigilants sur la place donnée aux professionnels de l'éducation nationale quant au projet éducatif qui sera mené. Et nous veillerons à ce que chacun reste à sa place, car si le bâti dépend bien du département, il ne demande pas moins que ce qui s'y passe dans ces murs relève de l'éducation nationale, avec un programme national qui devra être appliqué à Mantes-la-Jolie comme partout ailleurs.
Et alors concernant la surveillance dans les collèges, vous souhaiteriez plus privilégier la médiation et la prévention plutôt que utiliser des caméras de surveillance.
Absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes attachés à la proximité, à l'humain. Donc il nous semble que les caméras ne vont pas du tout dans ce sens-là. Bien au contraire. Je vais peut-être te laisser la parole pour la médiation.
Oui, donc moi hier j'ai eu une réunion avec le sous-préfet, le commissaire, l'éducation nationale, concernant justement la sécurisation. Il y avait aussi une représentante du conseil général, et nous avons abordé ce problème-là. Donc, ils ont mis en effet en place des caméras, mais il faut savoir que pour le positionnement des caméras, ça passe en conseil d'administration, et tous les conseils d'administration n'acceptent pas le déploiement des caméras à l'intérieur du collège et à l'extérieur. Voilà. Donc, nous, on est plus, comme disait Evelyne, sur la médiation, parce que quand on est au contact des enfants, on sait tout de suite, on perçoit s'il y a un problème, s'il y a une tension. Voilà ce que nous, c'est notre programme. Parce que même si le Conseil général a mis des médiateurs, pour nous, ce n'est pas suffisant, parce qu'ils privilégient des endroits. Mais nous, on voudrait que tous les collèges puissent bénéficier de ces médiateurs.
Et pour terminer avec la jeunesse, comment comptez-vous lutter contre le décrochage scolaire des élèves ?
Alors, nous allons soutenir les associations qui sont déjà en œuvre hein, sur notre territoire pour lutter contre le décrochage scolaire. Par contre, nous serons très vigilants au contenu qu'elles apportent aux enfants. Et puis, nous serons vraiment à l'écoute des professionnels par rapport aux difficultés qu'ils constatent et nous partirons d'eux pour mettre en place notre projet concernant effectivement tout ce qui touche au décrochage scolaire.
Et juste un mot sur l'accès aux stages en milieu professionnel, c'est quelque chose de compliqué pour les élèves. Comment peut-on faciliter leur accès aux stages ?
En créant un tissage avec les employeurs, en étant le relais et en participant activement à leur donner envie à ces employeurs de permettre aux jeunes d'entrer dans l'apprentissage et dans les stages professionnels qui sont indispensables effectivement à leur apprentissage et à la connaissance des métiers.
On parle à présent du développement durable. Alors, vous avez eu beaucoup de propositions concernant ce sujet, mais dans le cadre de quelles compétences du département comptez-vous contribuer à la préservation de notre environnement ?
L'environnement, c'est le sujet de tout le monde. Donc, ça serait aussi pour générer aussi de l'emploi. Quand on veut mettre en place, augmenter l'économie circulaire, ça conduit à des avantages économiques. Cette méthode est un facteur d'attractivité pour le territoire et d'opportunité d'emploi. Le déploiement d'une économie circulaire, ça permet de créer de nouvelles activités, notamment dans le secteur de l'éco-conception, de la gestion des ressources naturelles et des énergies renouvelables. Et ça change de la consommation linéaire. On achète, on consomme, on jette. En fin de compte, remettre plus que ce que faisait déjà Emmaüs. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on cherche aussi, c'est de créer des emplois sur le bassin, sur le canton.
Privilégier l'emploi local aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Alors concernant l'aménagement du territoire, là aussi, hein, il y a l'aspect environnement qui est à prendre en compte, notamment pour développer les voies douces.
Alors les voies douces, quand on voit l'explosion qu'il y a eu avec la pandémie d'achat de vélos, on va dans des magasins, il est impossible de trouver des vélos, donc il y a plus de personnes qui utilisent des pistes cyclables, il n'y en a pas assez, bon, on en a parlé, c'est dangereux sur les routes départementales, donc pouvoir faire des routes protégées pour que les cyclistes puissent tranquillement aller d'un point à un autre sans se faire renverser, comme ça arrive souvent.
Vous pensez qu'il y a des manques où environ ?
Sur le canton, et on en a sur Mantes-la-Ville. Voilà, il n'y a pas assez de pistes cyclables. Après, il faut étudier la cartographie, la faisabilité. Mais après, les personnes que j'ai rencontrées, eux, ils font sur les routes départementales hors agglomération. Voilà. Et ils ont toujours l'appréhension. Je connais une personne qui s'est fait renverser parce qu'une personne lui a grillé la priorité. Voilà, donc c'est... Après, c'est la citoyenneté de tout le monde, le respect de la route, mais protégeons déjà les cyclistes pour éviter qu'il y ait des morts, malheureusement.
On termine par la politique culturelle. Comment souhaitez-vous développer les équipements culturels ?
Et en renforçant le soutien et la création, la démocratisation aux associations, pouvoir leur permettre d'accéder, de diffuser dans des villages qui n'ont pas accès à la culture, que... Si la culture doit aller à eux, ils vont pas se déplacer. Donc, il faut amener la culture pour qu'ils puissent consommer sur place. Parce que voilà, il y a des personnes âgées, pareil, qui sont pas sur le canton, mais qui regrettent de ne pas pouvoir aller au cinéma, de ne pas pouvoir avoir quelques spectacles chez eux, quoi.
Et alors, comment est-ce que vous pourriez lutter contre les discriminations dans le domaine de la culture ?
Justement, ce qu'on appelle aussi discrimination, c'est favoriser les villages excentrés et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Donc, dans la périphérie du canton, les villages excentrés, voilà, je connais des personnes, comme je disais, qui ne peuvent pas se déplacer et qui regrettent que la culture ne vienne pas à eux. Quand j'étais jeune, on n'avait pas de bibliothèque, il y avait le bibliobus qui se déplaçait dans les communes environnantes. Voilà. Et ben là, on voudrait faire pareil sur le spectacle vivant. Nous, on veut privilégier le spectacle vivant qui a été très impacté pendant la première crise sanitaire. Voilà, beaucoup d'intermittents au spectacle, ils sont maintenant dans la précarité et essayer de redynamiser ce spectacle vivant et que tout le monde puisse aller.
Faut amener tous ces acteurs vers les territoires ruraux.
Tout à fait.
Et ça place aussi la mutualisation de ce qui existe, de la ruralité vers, de l'urbain vers la ruralité. Et donc on a déjà des choses. Maintenant, il faut les développer et il faut faire en sorte effectivement qu'elles touchent plus de personnes et qu'elles aillent au-devant des personnes.
Dernière question, vous avez évoqué les associations tout à l'heure. Justement, d'un point de, plus globalement, que ce soit au niveau culturel, mais au niveau aussi social, le soutien aux associations, c'est très important dans votre programme.
Oui, effectivement, c'est très important parce que c'est le maillage social, les associations. C'est ce qui fait le lien, c'est ce qui fait la proximité. Donc, on se rend compte aujourd'hui que c'est compliqué souvent pour les associations parce que le bénévolat n'a plus le vent en poupe, on va le dire comme ça, ce qui est bien triste. Et ce qui témoigne aussi d'une société très individualiste qu'on est en train de nous construire. Nous n'en voulons pas. Donc, bien au contraire, nous voulons favoriser... remettre au devant les acteurs des associations, les porter parce que ce sont eux qui font la vie de notre de nos villes, de nos campagnes.
Jean-Philippe Blot, Evelyne Dianabra, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Cette émission sera rediffusée à 12h30 et à 18h30. Demain à 8h, nous recevrons Marc Jamet et Bintassi, candidats pour le canton de Mantes-la-Jolie. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.